Il est 19h sur Radio G et vous écoutez Pop Flash pour cette cinquième, sixième émission de l'année. Bon, on sait pas, on a eu quelques petits problèmes la semaine, il y a deux semaines, et du coup on s'excuse, on n'était pas là parce qu'on était malade. Mais on espère que vous allez bien. Et comme d'habitude, du coup, je suis accompagné de Mel. Coucou Mel.
Coucou.
Accompagné aussi de Claire, comme d'habitude.
Hello.
Et aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va parler de beaucoup de choses en soi. Mel va nous faire un point sur les jeux vidéo, sur les différents dramas. Je pense qu'on va parler de Discord, d'Ubisoft, d'Activision. Et après, je pense qu'on va enchaîner avec la première musique, évidemment. Et on parlera ensuite avec Claire, du coup. Claire, de quoi tu vas parler ?
Une nouvelle série. En fait, pas du tout une nouvelle. Encore une fois, toujours en retard. Une petite série qui est sortie, qui était sympa.
Ok, on a hâte de l'entendre. Et on finira tout simplement par... Encore une fois, un point jeu de rôle. Je sais, on parle beaucoup de jeux de rôle ces temps-ci, mais cette fois-ci, on va parler des actual plays. Ce que c'est, pourquoi est-ce que c'est important. Et on pourra en présenter certains qui sont, du coup, actuellement soit en France, soit aux États-Unis, soit au Québec. Parce qu'il y en a aussi au Québec. Et voilà, sans plus attendre, on va tout de suite se lancer avec Mel pour Game Pop. C'est à toi, Mel.
Oui, alors, dans Game Pop, on va parler de plusieurs sujets. Notamment, on va parler de EA Ubisoft, de Discord et de Palworld et NES Nintendo. Donc, vous le savez, on a parlé déjà du rachat de EA Electronic Arts. Les gros dossiers, c'est que, du coup, EA est en passe d'être racheté définitivement, on en avait parlé, ça posait problème parce que ça allait devenir une entreprise privée, rachetée par une bonne partie de l'Arabie Saoudite, et du coup, ça posait beaucoup de problèmes, voilà, notamment sur l'éthique, etc. On sait maintenant le chiffre exact du rachat, 55 milliards de dollars. Ouh. Voilà, pour les investisseurs. Les actionnaires ont donc validé l'accord, mais le deal, il est toujours pas officiellement finalisé, comme on en avait déjà parlé la dernière fois. Il y a quand même des examens réglementaires à suivre, notamment par un comité américain qui vérifie tous les risques liés aux investissements étrangers, etc. Mais ça risque d'être conclu d'ici juin 2026. Et à partir de juin 2026, ça sera terminé pour Electronic Arts, qui quittera la bourse définitivement pour devenir une société privée.
Super.
Voilà. Donc voilà, mais il y a beaucoup de chances que ce soit autorisé par le SFIUS. Je pense que ça se dit pas du tout comme ça normalement, hein. Mais ouais, par le comité américain qui vérifie tous les risques et tout ça. Bon, il y a peu de chances qu'il refuse. Voilà. Ensuite, on se souvient, on en a parlé il y a pas longtemps, on a parlé de Ubisoft. Et c'est la crise ou la fête? Eh ben, en fait, Ubisoft, c'est la crise, comme d'hab.
C'est la crise.
Oui, c'est la crise. Continue. Okay.
Les licenciements et les restructurations continuent, notamment Ubisoft Toronto, qui a supprimé 40 postes. Voilà. Dans le cadre toujours de ces Creative House, qui sont censés être plus efficaces, mais qui est surtout coupé des têtes. Les studios ont fermé et d'autres ont été fortement réduits encore une fois. Et ça continue et ils explorent encore des options pour réduire les coûts. La situation financière est tendue, l'action d'Ubisoft est très faible avec une énorme volatilité et les investisseurs sont assez nerveux et les joueurs aussi, on va pas se mentir, hein. Ouais. L'entreprise, elle a dû revoir encore une fois ses objectifs financiers et je pense que chaque mois de cette année, ils vont devoir les revoir encore et encore.
C'est du boulot, ceci dit,
je te jure. Afin d'annoncer des plans de réduction des dépenses. Pour l'instant, cependant, il n'y a pas de discussion de rachat. Donc, parce que en fait, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'ils vont être rachetés, etc. Mais c'est pas officiellement confirmé. Alors c'est vrai que Tencent a des petites parts du coup maintenant chez Ubisoft, mais ça veut pas dire qu'ils l'ont racheté. Donc, pour l'instant, cette rumeur de comme quoi ça a été acheté, faut pas y croire. Cependant,
ça va venir, quoi.
Ça risque de venir, ou alors ils vont faire banqueroute et fermer. est tout fermé. Il y a peu de chances qu'il remonte la pente ou qu'il se retourne et qu'il fasse un bond exceptionnel et qui refonctionne comme avant. Donc voilà, ça c'est pour Ubisoft. Ensuite, Palworld et Nintendo. Bon,
c'est vraiment genre Roméo et Juliette de notre temps.
Je te jure, mais Palworld et Nintendo.
On sait que vous aimez Palworld et Nintendo.
Les Capulet.
Arrête, mais je te jure. Mais alors, comment dire ? Si vous vous souvenez pas, pour ceux qui connaissent pas un peu le sujet, Palworld, c'est un jeu qui est sorti en 2023 ou 2024 et qui est un jeu de survie avec des pales qui ressemblent fortement à des Pokémon, certes, mais ce sont surtout des créatures animales qui, et un peu monstrueuses aussi, qu'il faut pourchasser dans un open world. Voilà, comment on les capture, ces pales? Avec des sphères. Ok, ça ressemble à des Pokéballs, mais...
Je décide de Dib.
C'est des pales sphères, c'est pas la même chose. Oh.
Physiquement, elles ne se ressemblent pas. Actually, elles ne se ressemblent pas. Mais... Effectivement, bon, il y a quelques similitudes, sauf que Nintendo, ça leur a pas plu, forcément, parce qu'ils se sont dit, mais attends, c'est Pokémon, en fait. Et du coup, ils font mieux que nous, avec un seul jeu, mais ça va pas le faire. Nous, ça fait 25 ans qu'on fait des Pokémon et qu'on est en train de perdre notre audience. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Nintendo porte plainte. Comme on est étonné, sauf qu'en fait, depuis qu'ils portent plainte, donc depuis fin 2024, ils n'ont pas gagné un seul procès contre Palworld.
Parce que c'est bien connu, c'est à cause de Palworld que les jeux Nintendo deviennent médiocres, pas du tout parce qu'ils font des jeux médiocres. Hein.
Ça n'a rien à voir, s'il n'y avait pas d'autres jeux, on ne pourrait pas comparer.
Mais non, mais en fait, ils ont porté plainte pour violation de brevets liés à certaines mécaniques de jeu ressemblant à Pokémon. Le ressemblant est très important. La bataille est toujours en cours, du coup, depuis 2024. Nintendo affirme que certaines mécaniques de capture ou de fonctionnement violent ses brevets. Et Pocket Pair porte une défense solide en essayant de contester ses brevets, qui mentionnent même des modes historiques comme Prior Art. Il y a même eu une mise à jour du jeu Palworld qui s'est dit « Ok, on va la jouer faire, on va changer un petit peu le système de capture, etc. » C'est toujours des sphères que tu lances, mais c'est plus aussi ressemblant qu'avant. Et pour avoir joué récemment, effectivement, ça a changé. Et t'as plus ce côté très Pokémon, etc. Sauf que Nintendo, ils sont toujours pas contents. Ils se sont dit, oui, mais actually, la paravoile, c'est chez nous ça aussi. Donc c'est notre brevet. Et donc en fait,
Attends, voler dans un jeu, c'est chez nous ça. Non mais vous planez. C'était un truc.
Dites-vous que
ils ont fait un procès à Superman. Ouais.
Non mais le vol de créature. Donc quand ton personnage vole sur une créature, ils ont dit que c'était à eux et que c'était un brevet qu'ils avaient déposé parce que c'était Nintendo qui avait imaginé.
J'ai l'impression de voir un enfant qui est en train de dire que c'est son brevet là.
Et que c'était eux qui avaient créé ça et que ça. Que ça venait de Pokémon et tout ça. Excusez-moi, vous avez déjà vu dans Pokémon pouvoir ton personnage voler sur un Dracaufeu?
Mais non, mais je crois d'ailleurs qu'ils ont demandé à House of the Dragon d'arrêter parce que les dragons et les humains, c'est impossible, c'est eux qui l'ont inventé.
Puis même dans Zelda, ah mais non merde, Zelda c'est Nintendo. Là ça change tout.
Non mais vous comprenez, bientôt aller sur une falaise, ce sera Nintendo parce que vous savez, il faut là quand tu sur une falaise, les routes aussi et se battre contre une créature, c'est nous.
Ils ont interdit les fonds de mer, la pêche, ils ont tout interdit d'ailleurs.
Du coup, ils ont...
C'est nous.
Mais du coup, Palworld qui a essayé d'être fair et qui avait supprimé les fonctionnalités qui rappelaient trop Pokémon, Nintendo n'a pas accepté. Et donc, c'est toujours pas réglé. Mais c'est pas fini parce que du coup, petite information qui m'a fait bien rire, ils ont encore déposé plainte alléguant toujours les mécaniques. Sauf que les tribunaux ont encore rejeté les revendications de Nintendo pour défaut d'originalité. Ce qui du coup a renforcé la défense de Pocket Pair, donc ceux qui sont derrière le studio, qui sont derrière le jeu Palworld. Donc oui, Palworld effectivement a bien changé certaines mécaniques tout le temps restant dans leur jeu, sauf que Nintendo sont toujours en mode non, c'est à nous, gna. Sauf que ça marche pas.
Ils se rendent compte qu'ils sont en train de se ridiculiser à l'international.
Et non, mais Nintendo, il a genre un RH qui est réservé uniquement à ses avocats.
Ouais.
Oui. Oui, oui, oui.
Mais on passe à la suite parce qu'il faut avancer. On est déjà à 12 minutes, mine de rien.
Oui, et c'est pas fini parce qu'on va parler de Discord maintenant. Alors, JR, il est au courant. Claire, du coup, t'es pas trop au courant.
On en a parlé donc, un petit peu. Je vais faire genre, je connaissais la réponse au test.
Non.
Quoi?
Damn.
On va parler Discord?
Non. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous savez que sur Discord, il y a des salons. Des salons où on peut mettre une limitation d'âge pour poster des choses un peu plus touchy, un peu plus matures. Donc, des choses not safe for work, des choses un peu plus politiques, un peu plus débattables, etc. Un peu plus trash aussi, un peu plus... Voilà. Mais bon, on part du principe que ça reste quand même dans le respect d'autrui, n'est-ce pas? Sauf que du coup, on sait qu'il y a eu beaucoup de dérives. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais le problème, c'est que Discord a annoncé que dès mars 2026, il y aura une vérification d'âge global pour Discord dans tous les serveurs du monde. Donc, c'est vraiment un truc mondial. L'idée officielle, c'est de mieux protéger les mineurs des contenus réservés aux adultes. Sauf que, jusque-là, sur le papier, ils ok. Sauf que, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que tous les utilisateurs, anciens et nouveaux, seront par défaut en mode adolescent. J'ai 30 piges, ok? Bientôt. JR, il a 30 piges. Comment ça, on va être des adolescents?
Moi, ça les a pas choqués. Vous noterez que moi, ça va, je peux rester en ado.
Oui, mais toi, t'es encore un bébou. Non, mais voilà, nous, on est vraiment des vieux, quoi.
Alors, je ne te permets pas.
Et pour prouver que... Mais en fait, du coup, pour à la limite, bon... tu te dis, bon, tu passes en mode ado, ok, tu remets ton âge et puis c'est pas très grave. Sauf que pour prouver que tu es majeur, Discos proposera deux options. Un scan de pièce d'identité officielle, donc en gros, il faudra prendre une photo de sa carte d'identité et l'envoyer à Discord. Ou carrément un scan du visage. Voilà, donc ce qu'on appelle les données biométriques. Bon, déjà, là, est-ce que ça peut poser problème? Oui. Et pourquoi ça chauffe grave? Eh bien, parce que déjà, il y a une violation de vie privée et de méfiance générale. Surtout que Discord avait déjà tenté un test au Royaume-Uni avec une société nommée Persona.
Alors, qui n'est pas le jeu, attention.
Qui n'est pas le jeu, non? Loin de là. Lors de ces tests, des utilisateurs, du coup, ont dû soumettre des infos sensibles, photos date de naissance, etc., et même données biométriques, même si Discord disait que les données ne partaient pas bien loin. Mais où est-ce que ça allait? Eh ben, dis donc, Persona traitait les fichiers, sauf qu'en fait, Persona, c'était pas du tout sécuritaire. Puis... Ils ont été hackés. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les données biométriques, elles ont été hackées. Et du coup, les données ont fuité partout. Voilà. Mais c'est pas tout. Parce que, ok, il y a des hackers, des vilains hackers qui sont venus, qui ont retiré les données, etc. Ok. On peut dire que bon, c'est pas cool, voilà, que c'est pas la faute de Persona, ils ont été hackés, gna gna gna, c'est pas la faute de Discord. Sauf que, cependant, comme diraient certains, et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? On découvre que Persona travaille avec le gouvernement, le FBI et des sociétés un peu comme ça, pour les recherches, pour les données de recherche, et notamment de recherche avec le FBI, etc. Donc, ça veut dire que ton visage peut être dans les dossiers du FBI. Mais ton visage mondial. Hein.
Donc, ton visage, ton nom.
Ton nom, ton visage, ton âge, tes données, ton âge.
Pour qui tu votes.
Ta localisation.
Alors, on va en venir. Alors, ok, c'est le visage, etc. Ok, ça pourrait aider pour ceux qui tiennent des réseaux pédocriminels.
Et il y en a sur Discord, c'est vrai.
Et il y en a sur Discord. Et ça, bon, je peux le comprendre. Sauf que... ils ont dit que ce qui allait être mis en compte aussi dans les paramètres, ce serait la politique, l'orientation sexuelle et les idées à débat. Donc,
vous sentez ça, Yvonne ? C'est le bruit des bottes.
Oui, et les idées religieuses. Voilà. Donc, en gros, si tu donnes tes identifiants... enfin, même pas tes identifiants, pire, si tu donnes tes données biométriques et que tu dis dans un salon que tu dis par exemple que dans un salon tu es de telle religion ou de tel bord politique, et ben en fait le FBI peut venir chez toi du coup et te dire bah, vous allez être arrêté madame, monsieur, parce que bah, comment ça vous n'êtes pas d'accord avec le politicien actuel, le président actuel, ça
surtout en période d'élection,
c'est bizarre,
et n'est-ce c'est pas comme si dans certains pays qui sont censés être la plus grande démocratie du monde, des opposants politiques se sont fait arrêter en direct.
Non mais c'est un hasard ça.
Non, mais t'inquiète, c'est pas du tout le bruit des bottes qui arrive.
Voilà, donc du coup ça a mis en colère les utilisateurs, ce qui est normal. Il y a déjà des gens qui ont ce paramètre là de vérification d'âge, dont une amie à moi qui habite au Royaume-Uni justement.
Oui.
Et qui m'a dit sur les serveurs, je peux plus accéder aux serveurs politiques, aux serveurs Not Safe for Work, etc. je me sens trop triste, etc. Et en fait, pour l'instant, il y a moyen de contourner ça, qui passe sur les réseaux. C'est en fait, depuis votre PC, vous allez sur Discord, vous faites dans les paramètres, vous changez dans le paramètre famille, vous changez la date de naissance et vous remettez votre vraie date de naissance. Et si vous êtes majeur, et ben du coup ça repasse et c'est bon, vous pouvez revenir sur les serveurs 18+ et limité d'âge. Cependant, on sait que ce genre de choses, ça risque d'être changé, patché, corrigé, etc. Ou ils vont essayer de contourner ça, etc. Donc, pour l'instant, ça marche. Donc, comment faire ? Vous allez dans les paramètres. Alors, par contre, ça marche pas sur les applications mobiles. Voilà, que ce soit Android ou iOS, n'est-ce pas ? Donc, vous devez le faire via ordinateur. Vous allez dans les paramètres centre famille ou familial center et vous rentrez du coup votre date de naissance et voilà, vous serez plus considéré comme adolescent. Surtout, ne donnez pas vos données. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Si vous approuvez et que vous êtes d'accord avec ça, faites-le. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça et que vous sentez obligé, ne le faites pas. Moi, je pense que c'est pas sécurisé, surtout que... Alors, petit fun fact, ce matin, j'ai reçu un mail où un certain endroit s'est fait hacker, où j'avais donné mes données, notamment des données biométriques, parce que pas le choix, il fallait que je fasse des photos, voilà. Et du coup, ça a été hacké, voilà. Et après, vu qu'on parle de Discord en ce moment, etc., Discord, ça me fait un peu peur.
Discord s'était fait hacker il n'y a pas longtemps. Puis on va pas juste oublier un truc. Je vois le temps, du coup, j'interviens.
Bien sûr.
Faut savoir qu'il va y avoir, il y a des alternatives. Il y a TeamSpeak à Discord, mais il y a
c'est
aussi
ce que j'allais dire, ouais.
Un Discord qui est européen, qui est en train d'être développé. Alors ils n'ont pas encore d'application mobile, mais ils ont une application sur. Sur internet tout simplement, et que tu peux télécharger sur ton ordinateur. Je l'ai testé hier. Et c'est vraiment comme Discord. Alors, ils sont encore en pré-alpha, c'est encore en développement.
Comment
c'est
ça,
encore...
s'appelle
ça s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, juste que je retrouve le nom.
Parce que sinon, il y a les alternatives comme Stoat, ex-Revolt, TeamSpeak. C'est très vieux, TeamSpeak,
TeamSpeak
d'ailleurs.
TeamSpeak, c'est vieux parce que c'est Discord qui l'a remplacé, au fond.
Ouais. Oui, bah, totalement. Discord
ça
a remplacé...
Fluxer. Et en fait, TeamSpeak, le seul truc que moi je vais mettre comme réserve, c'est que d'un point de vue ergonomique, ça pue la merde.
C'est horrible, TeamSpeak.
Alors que Fluxer, vraiment, genre, c'est... Voilà.
Mais il y a aussi Matrix et Element, mais du coup, Fluxer, c'est que européen.
Fluxer, c'est européen, alors ça peut être un peu... Ça peut être téléchargé un peu partout, c'est open source. C'est open source. Faut savoir que bon, il y a toujours des abonnements pour avoir 2-3 trucs en plus, mais c'est moins cher que Discord. Ouais. Bon, en fait, pour les mêmes trucs que Discord, c'est deux fois moins cher. Et ils sont giga transparents. Il y a des roadmaps qui sont faits. On sait qu'on a dit qu'on allait faire en Instagram. Ça va venir. Et si ça vous intéresse les avancées de Fluxer, moi je suis prêt à les faire vu que j'ai déjà un compte dessus.
D'accord.
Donc, j'avance. Je sais que la taverne va être dessus aussi.
Ouais, mais c'est juste dommage en fait parce que bah, du coup, si t'es aux US, est-ce que tu peux aller
sur Fluxer? Oui, tu peux aller sur Fluxer. Okay. Alors pour l'instant, Windows est un peu en mode c'est quoi ça? Mais c'est Windows.
Ça bug?
Non, c'est pas ça, c'est plus qu'en fait, ils ont pas encore de partenariat avec Windows.
J'allais dire, ils ont pas les certificats ou un truc comme ça.
Ouais, ils ont pas encore les certificats Windows. Du coup, Windows est en mode non, mais c'est pas bien, mais en fait, si, c'est genre vraiment. Alors, lui, c'est vraiment Discord. Ils l'ont pompé comme des gros chiens, mais.
Ah ouais, ça ressemble à Discord.
Ah, mais vraiment, je te montrerai en rentrant si tu veux. Ouais. C'est Discord.
Ah ouais, bon, c'est pas ouf ça.
Non, si, c'est pas assez libre de droit. Ils ont pas. Y a pas de truc là-dedans, c'est juste l'apparence. Ouais. Mais en soi, c'est tout. Et même en parlant, on va dire, purement du climat politique, il faut qu'on ait des alternatives européennes.
Ah ben, ça c'est sûr. Mais le truc, c'est que moi, par exemple, j'ai des amis de serveurs.
Ils peuvent y aller.
Et qui sont. Il y en a aux US, il y en a en Asie, il y en a un peu partout.
Fluxer est partout dans le monde, hein. C'est pas réservé aux Européens, c'est juste que c'est développé en Europe.
D'accord.
Et du coup, en fait.
J'en parlerai sur les Discord, mais voilà. Vous avez le droit d'adhérer à ce genre de choses, mais c'est juste que moi, je trouve que c'est pas éthique. Je pense que tout le monde ici autour de cette table trouve que c'est pas éthique du tout. C'est dommage. Et voilà, et puis en plus Discord emploie de plus en plus d'IA à la place de vrais gens, et notamment ça pose problème parce qu'il y a des gens qui se font ban de Discord ou qui se font supprimer leur compte pour des choses qui n'ont rien parce qu'ils ont rien fait, alors qu'ils ont rien fait parce que l'IA est complètement déréglée, et du coup voilà. Donc, c'est un peu la
en
merde par rapport
c'est en double teinte.
Discord, voilà. Moi, je sais que pour l'instant, je l'utilise encore parce que j'ai pas encore cette vérification d'âge. Mais je sais pas. Peut-être aller ailleurs à un moment donné. Je sais pas. Vous, toi, Claire, est-ce que tu vas continuer à utiliser Discord?
En fait, j'utilise tellement peu Discord que ça me change pas grand-chose. Mais parce que vraiment Discord, je l'utilise pour les gens que je connais, et j'ai genre une trentaine d'amis sur Discord où je pense 4 serveurs, tu vois, sur lequel je suis pas du tout active. Donc,
ouais.
Si vraiment, genre, un moment Discord me demandait de faire ça, ça me changerait rien. J'utilise pas de salon NSFW, j'utilise rien. Je pourrais continuer à rester dessus parce que tout simplement, j'utilise juste pour appeler mon mec quand on fait du gaming d'une pièce à l'autre, tu vois.
Ouais, je vois. Toi, JR,
moi, dis-toi qu'on a déjà une discussion avec des potes qui sont, du coup, sur la taverne, donc le gros serveur sur lequel je suis en tant que modo, et le serveur a déjà été créé.
Oui.
Sur Fluxer.
Mais c'est
donc,
ça.
Est-ce qu'on va partir? Ah oui, parce que autre chose sur Fluxer que permet Fluxer et que ne permet pas Discord, les produits dérivés. En gros, Fluxer permet d'avoir une boutique directement sur Fluxer qui permet du coup de vendre tes trucs contre et en pourcentage qu'ils prennent, mais du coup tu peux directement avoir tes produits dérivés sur ton Discord et pas sur une autre plateforme.
Ouais, c'est pas trop mal.
C'est pas mal.
Et ça permettra peut-être aussi possiblement de rémunérer les personnes qui gèrent le Discord.
Ouais, ça c'est vrai que ça Fluxer, peut être.
Du coup, parce que du coup, oui, non, c'est
oui, parce que je me rappelle que quand une époque j'étais admin sur un serveur Discord, et vraiment très sincèrement, hein, la rémunération n'existe que pour le propriétaire du
même
serveur.
Pas.
Non.
Et elle est toute petite. Si ça peut le faire.
Oui.
Ah ouais.
C'est une
Ah oui, bah oui, je pense
c'est
que tu
une
dois
question
avoir
de selon le nombre de personnes qui cliquent, et c'était.
Là on en est un point où nous, la taverne, on est plus de 400. On est 500, même plus de 500 maintenant aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte que le serveur est doucement en train de mourir. Ouais. Parce que, genre, 500 personnes, c'est beaucoup de monde. Et on a tous des vies à côté, on doit travailler, on doit manger. Et du coup, on est en mode, on aimerait bien que ça continue à marcher. Mais d'un autre côté, Discord est en mode, soit vous mettez des pubs partout et là, vous allez gagner 2 euros.
Ah bon, ça peut mettre des pubs sur ton serveur.
Ouais, maintenant tu peux mettre des pubs sur ton serveur, tu peux faire plein de trucs, tu peux littéralement laisser Discord avoir accès aux données de tes utilisateurs pour faire ça. Et
ben oui, parce que du coup c'est des pubs ciblées, c'est ça, comme ça, donc c'est vraiment
parce que
pas
en soi tu acceptes et que tu autorises de Discord à partir du moment où tu ouvres un compte
avec
chez eux.
Ouais,
en fait.
Ouais.
Parce que t'as signé, t'as accepté, c'est un contrat que t'as signé, hein, qu'il soit tacite ou non, t'as accepté ça. Après.
Du coup, peut-être que on pourra faire un
update de ça.
Un update et un serveur fluxeur Pop Flash
sur lequel on sera bien évidemment actif parce qu'on n'a pas du tout de vie à côté, donc ça va.
Surtout moi, ça va. Je pourrais m'en occuper.
Mais voilà, donc il y a juste une phrase que je vais dire. Beaucoup de personnes sont en mode, ouais, mais moi je m'en fous, j'ai rien à cacher. Oui, en effet, t'as rien à cacher jusqu'au moment où t'as quelque chose en fait à cacher, ou qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas,
non,
et qui ne plaira pas en fait au gouvernement.
C'est plus ça.
Oui. Si en fait, à un moment, les données qui vont être récoltées peuvent être utilisées par n'importe quel gouvernement. Je parle pas de la France, je parle pas spécialement des États-Unis, je parle de n'importe quel pays en fait
de partout,
qui pourrait avoir.
C'est de façon théorique, tu parles.
De façon théorique, qui parle. À partir du moment où t'auras un avis qui ne sera pas pour un gouvernement qui tournera vers le fascisme ou vers une dictature.
Ça va, mais ça va plus loin que ça.
Ça va plus loin que ça.
Ça va plus loin que ça. Le droit à la vie privée et le droit d'effectivement ne pas avoir à partager tes informations personnelles avec une entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et quand ça disparaît, il se passe quoi ? Parce que c'est très compliqué, la limite, elle est très basse. À partir du moment même où tu feras un achat, où tu achèteras une maison, tu seras traqué, on le saura. Et toi, ça te met en danger quand il y a des leaks, parce que des gens mal intentionnés peuvent le faire, au-delà même de ton avis politique ou quoi.
Oui, c'est ça, on parle de personnes, genre, on va même parler de personnes qui se font stalker ou autre. Je suis désolé, on va devoir stopper là, parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on est sur le sujet.
Oui.
Donc on va devoir s'arrêter là, mais faites attention à vous. La vie privée, c'est important. Ouais. Et ne laissez pas des grosses entreprises, surtout que là, c'est devenu du coup une vraiment grosse entreprise qui a été rachetée par un ancien patron d'Activision et qui est en train du coup d'essayer de faire un maximum de thunes là-dedans. Ces personnes-là ne veulent pas votre bien. Ils veulent se faire de l'argent. Et vos données personnelles ne sont pas...
Vous êtes des numéros.
Oui. Vos données personnelles ne sont pas des choses qui peuvent aller et venir comme ça. Ne laissez pas les gens prendre le pouvoir sur vos vies comme ça. Désolé si c'est peut-être...
Non, mais t'as totalement raison, je trouve.
Et sur ce, on va s'arrêter là. Ouais. Désolé, Mel, je coupe court, on n'a pas pu parler de ton jeu.
Mais c'est pas grave, de toute façon, c'était juste pour parler vite fait.
Oui. Et du coup, on va mettre I Was Made For Loving You de Kiss. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À l'heure.
I was made for loving you, baby. You.
Alors, on est de retour. Et on est de retour, du coup... Oui, pour vous jouer un mauvais tour, le micro de Victor n'était pas encore. Mais,
ouais, il a volé ma blague.
Super, voleur.
mais du coup, je vais vous laisser de toute façon avec Claire qui, du coup, va nous parler dans Pop and Clap, du coup, d'une série qui n'est pas nouvelle. Et du coup, Claire, c'est à toi.
Vous le savez, j'aime le médiéval. Vous le savez, j'aime les sagas. Et surtout, vous le savez, j'ai un problème avec les séries. J'ai beaucoup de problèmes, mais pas que celui-là. Donc pour cette émission, je voulais un peu revenir sur des bonnes bases. Et pour commencer, je voulais une petite question, parce que moi, j'avais l'info plus profond de mon cerveau que je n'utilisais plus. Vous savez de quand à quand c'est le médiéval ? La période médiévale en Europe.
C'est le Moyen-Âge.
Plus ça, plus
non, je sais pas, je suis très nulle pour
c'est,
ça.
C'est genre... c'est pas genre 1000 de 1100 à genre 1004 ou 1005.
C'est entre l'année 300 et l'année 1492, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Là, actuellement, la série dont je vais vous parler s'appelle Le Décaméron. C'est inspiré de livres, pour le coup, qui sont sortis en 1350, je crois, par Boccace, ou Boccace, je pense que ça se prononce plutôt Boccace, qui est un Italien qui parle effectivement, pendant le médiéval, des relations féminines sexuelles, et qui parle surtout dans le concept de la peste. Parce que du coup, Moyen-Âge en Italie, peste, et aussi tremblement de terre, mais ça c'est une autre histoire, mais surtout la peste. Et du coup, Le Décaméron, c'est plus de 100 nouvelles qui existent, qu'il a écrites, centrées autour d'un groupe de femmes, et c'est 5 femmes, 3 hommes, qui sont enfermés dans une villa loin de Florence, parce qu'ils habitent tous à Florence normalement, et ils se sont tous barrés, ils sont tous jeunes, et ils sont enfermés dans une sorte de huis clos pendant des jours, attendant que la peste s'arrête concrètement, avec leurs serviteurs. Et donc, toutes les nouvelles, elles parlent effectivement de eux, qui chaque jour, il y a un roi ou une reine de la journée qui choisit un thème, et ils doivent tous se raconter des histoires. Toutes les histoires finissent toujours par parler de cul, et notamment, effectivement, parfois de religion. Et donc, on a beaucoup d'histoires sur des nonnes qui aiment beaucoup le jardinier, ou des nonnes, ou des clergés qui aiment beaucoup les femmes, parce qu'effectivement, Dieu aime son prochain, comme on le sait tous. Et effectivement, donc ça, c'est une histoire qui a été écrite, effectivement, au Moyen-Âge, qui, évidemment, a été censurée par l'Église pendant... des siècles et des siècles, parce qu'évidemment, ça donnait pas la meilleure image qui soit. Et évidemment, quand ça parle de ça, c'est assez populaire. Donc évidemment, vous doutez bien que des nouvelles, c'est populaire pour les gens qui savaient lire. Donc les gens avec un peu d'argent, des gens qui ont le temps de remettre en question la religion, finalement. Donc, il y a le Décaméron qui existe. Et en 2024, on a sorti le Décaméron sur Netflix. Évidemment, c'est pas des nouvelles, parce qu'évidemment, c'est un peu compliqué de faire des nouvelles à propos d'histoires de cul au Moyen-Âge. C'est un genre vraiment très très précis. Mais donc, décidément, on a récupéré les mêmes personnages, 5 jeunes femmes, 3 jeunes hommes qui se retrouvent enfermés dans une villa pour fuir la peste de Florence et qui finissent effectivement par avoir des petites intrigues amoureuses un peu partout, d'un goût plus ou moins sûr, on peut dire ça comme ça. Et c'est un vrai plaisir à regarder. Le Décaméron est bien plus dramatique et un peu plus sérieux pour le coup. Par contre, la série en elle-même est bien plus comique, bien plus remise au goût du jour de ce côté-là. On est sur des costumes très exubérants, mais qui sont pas hors de propos. Moi qui aime bien tout ce qui est costume un peu médiéval, les longues manches, les tenues sont vraiment gros froufrous, mais avec beaucoup de motifs, on y est. Les dratures, tout ça, c'est vraiment très intéressant à regarder, c'est très sympa. On est sur 8 épisodes pour la saison 1. J'ai pas encore complètement fini la série, il manque genre un épisode. On reste sur du comique, mais il y a un petit dose de dramatique que moi j'aime bien, qui remonte un peu le truc. Les cachotteries, mais c'est pas dans cette série. Moi je déteste les séries où c'est genre des gros malentendus, où ils auraient pu juste communiquer entre eux, et ils le font pas. Là concrètement, je comprends pourquoi ils communiquent pas toujours entre eux en fait. Du coup, ça rend le truc un peu spicy de genre, lui fait ça, mais du coup, est-ce que ça va pas genre dévoiler des secrets? Et il y a les serviteurs dans tout ça qui genre sont complètement paumés au bout de leur vie, parce que concrètement, à l'époque, t'es un serviteur, tu restes toute ta vie serviteur de la même personne, de la même famille. Quand tu te retrouves avec genre 8 nobles en rue dans une villa, complexe. Complexe la vie de certitude, avec la peste dehors, quand même, rappelons-le. La peur de mourir de faim. Et eux, ils sont genre à côté en train de te dire, tu peux me faire mon bain, s'il te plaît? Enfin, vraiment? La série est très fun. On a des acteurs qui sont pas particulièrement connus dedans. On a une petite française qui est très mignonne, qui est très sympa. Et c'est pas non plus une créatrice qui est genre hyper connue. C'est Caitlin Jordan qui a été connue pour une seule autre création. C'est Teenage Bounty Hunters. Je ne connais pas, vu le titre. Je pense que ça parle à peu près des mêmes thèmes, mais si vous aviez envie de vous poser devant une série pendant genre une heure à faire un truc un peu sympa, ça c'est bien. Et c'est aussi le genre de série qui vous prend pas non plus pour des débiles en fait. Elle va pas vous dire « Oh là là, telle personne ne peut pas faire ça parce que c'est un serviteur quoi. » Non, ils ont autre chose à faire. Juste, vous vous asseyez, vous profitez, vous rigolez et c'est quand même très très sympa. On n'a pas des grosses musiques en mode reprise de musique actuelle comme Bridgerton pourrait le faire. C'est un peu plus réaliste de ce côté-là. Mais ça a vraiment un côté hyper léger au début qui est très sympa. Et quand le drame se met vraiment en place petit à petit, ce qui fait qu'on se sent pas genre super oppressé d'un coup. Bonjour, la servante écarlate, on te voit.
Oui, n'est-ce pas?
Mais donc ça, c'est très sympa. Et du coup, effectivement, j'ai adoré cette série que j'ai trouvé genre vraiment sympa. Je suis tombée dessus 2 ans trop tard, je pense, parce qu'elle serait sortie à l'époque, ça m'aurait beaucoup plu. Et je pense que ce qui a pas marché et ce qui a fait que ça peut marcher quand même maintenant et qui me parle beaucoup plus, c'est que bah, les pandémies, maintenant, on connaît avec le Covid, en fait. Ouais. Et du coup, effectivement, bah, la peste qui ravage tout et qui fout un peu le bordel partout, en fait, bon, ça nous parle. Donc je pense que la série a été un peu créée à l'aune de ça. C'est un huis clos, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de paysages. Il y a un château qui est magnifique. Je pense que vraiment, vous regardez sur Internet 5 minutes, la villa, elle est sublime. Moi, je veux bien être enfermée dedans, c'est pas grave. J'aime bien être enfermée de toute façon. Et effectivement, genre, j'ai trop envie de recommander cette série aux gens parce que bah, j'aime bien tout ce qui est médiéval, j'aime bien tout ce qui est fantastique. Mais là, celle-là, elle me plaît et je pourrais pas vous dire exactement tout le temps pourquoi elle me plaît, mais elle fait du bien, regardez, elle est rafraîchissante. Et je regardais après les avis sur Internet et les gens sont quand même très mitigés. Donc, ouais. Peu importe la fin de la série, je suis pas sûre qu'on ait une saison 2, mais pour l'instant, elle vaut ce qu'elle vaut. Je pense qu'elle est très très sympa à regarder et plutôt cool. Surtout une époque où, il y a Game of Thrones qui est en train de sortir, mais on n'a pas tant d'autres séries historiques qui vont vraiment sortir en ce moment. Donc, ça vaut le coup de checker une petite série humoristique à l'ancienne, quoi, finalement.
Ça en vrai, ça a donné grave envie.
Ça fait un peu Gossip Girl, mais en version huis clos dans l'univers un peu. Ouais. Même pas dans l'univers Bridgerton, dans un univers.
C'est le Moyen-Âge, quoi. Genre, il n'y a pas tant de séries sur le Moyen-Âge que ça non, qui existent. On va voir quoi? Peut-être Outlander, mais j'ai pas trop regardé. Après, moi, j'ai dû regarder un épisode de Outlander, j'ai trouvé ça très gris, alors que là, la série est carrément beaucoup plus colorée, ouais. Comme le Moyen-Âge l'est de base. Ouais. Ça fait plaisir. Surtout avec Florence, avec des nobles riches. Genre, les mecs géraient les draps et tout. Genre, s'ils sont pas en couleur, je ne comprends pas l'intérêt.
Ça a l'air trop stylé. Moi, mais ça m'a grave donné envie, cool. En tout cas.
Et bah, évidemment, bah, ça se moque vachement de la religion, ça parle vachement de cul. Donc, il faut évidemment être prêt. Ne regardez pas ça avec vos parents, ça pourrait. Mais à la fois, c'est pas du cul pour du cul, quoi. S'il y a du cul, c'est très sympa, c'est très fun, et c'est jamais vraiment gratuitement comme ça dans votre visage. Parce que moi j'aime bien parce que personnellement il y a des séries qui me mettent très mal à l'aise par rapport à ça. Coucou les hauts de Hurlevent. Non pardon, Hurlevent. qui
j'ai pas vu le film.
Pour le coup, en termes de film historique, aussi au médiéval, a beaucoup de faces et beaucoup plus que dans le livre. Dans le livre de Hurlevent, sachez, et je peux vous spoiler, c'est pareil, c'est sorti il y a longtemps. Ce qui devrait être ma phrase préférée. Ils sont un bisou avec ils sont un bisou. Dans la série, ils couchent ensemble tellement souvent que la scène de fin où il lui fait un câlin, on se dit juste oh, bah, t'aurais pu faire pire.
Pourquoi t'as pas couché avec elle?
Encore.
Damn. Non, mais plus sérieusement, ça donnait vraiment envie.
Ouais.
Après, je sais pas si vous, en termes de séries un peu historiques ou de séries découvertes, vous en avez en ce moment.
Mighty Nine, mais ça c'est Vox Machina, mais ça on en parlera une autre fois.
Pas pareil, n'est-ce pas? La fantasy. Complètement décalé dans l'univers de Donjons et Dragons, ça n'a rien à voir.
Oui.
Mais dans les séries historiques, non. Bah il y a Bridgerton, mais c'est même pas historique. C'est trop moderne pour que ce soit.
Ouais.
C'est dans un univers historique, mais qui est même pas totalement représenté. C'est juste à une époque.
Ouais, ils ont pas placé.
C'est même
vraiment,
presque de
pas.
La fantasy à ce stade.
Bridgerton. Ouais, c'est un autre monde, quoi.
Ouais, franchement, ouais. Mais j'aime beaucoup Bridgerton, mais ouais, c'est.
J'aime bien Bridgerton pour ce que c'est, pour m'occuper l'esprit. Mais
c'est sûr que tu te dis pas, ouais. Ah ouais, c'est historique et je vais apprendre plein de choses sur le monde d'avant et tout ça. Non.
Je trouve que, ouais, il y a bonne écriture et bonne écriture. Vous voyez, quand on parle de serviteur dans Bridgerton, ah, si t'es un serviteur, c'est pas trop grave, quoi. Là, dans le Décameron, ils sont vraiment genre premier degré. À un moment, il y a une des nobles qui finit par être un moment serviteuse. Pour une raison X que je vous dirai pas.
Okay.
Et genre vraiment, elle galère parce qu'en fait, elle sait pas, elle sait rien faire, concrètement. Et à un moment, elle se lave les mains et l'autre, elle l'aide parce qu'elle est trop nulle. Elle lui dit, vous avez les mains très douces quand même. Tu vois? Et ce genre de détail du, oui, effectivement. Oui, je suis d'accord. Mais c'est trop sympa. Ils savent pas, les nobles se savent pas se servir de pelle. Et pourquoi est-ce qu'ils auraient su servir d'une pelle?
C'est fou quand même.
Mais oui, mais en fait,
mais c'est tellement
vrai. Véridique.
Oui.
Mais oui.
Tu mets 8 individus et enfin après ils sont plus une dizaine au final dans un truc fermé avec des boucs qui ont jamais rien fait de leur vie et genre il y a 4 serviteurs et la peste dehors donc t'ouvres pas tes grilles pour n'importe qui. Oui, effectivement, surprise surprise quoi. Et très sincèrement, les décors sont incroyables. Genre vraiment, j'ai jamais vu des décors aussi beaux. Après, c'est une série Netflix, ils ont sûrement le budget. Et en gros, pour finir ma dernière partie, ce que je voulais un peu ressortir, c'est un peu la filmisation des séries. Une série comme ça, c'est super, mais ça dure 58 minutes d'épisode. Et les décors sont sublimes, et les costumes sont sublimes. Mais en fait, est-ce qu'à ce stade-là, c'est des films ou des séries? Moi, je me pose vraiment la question, parce que tous les réalisateurs actuels quasiment de séries ne font que des films. Sinon, oui. Ou viennent du monde du film. Et on n'a plus vraiment ces petites séries de 20 minutes. C'est dur de trouver une série où genre, l'épisode dure que 20 minutes, ou un truc du quotidien, c'est tout sort d'un coup, sur des longs, longs épisodes. Et c'est un peu un phénomène qui, moi, m'inquiète, parce que du coup, en fait, je vois pas bien la différence entre une série sur Netflix où on regarderait, ou un film où on irait au cinéma. C'est toujours les mêmes durées. Et au final, entre les séries Netflix qui te sortent partie 1, partie 2, et un film qui sort partie 1, partie 2 au cinéma, bah, je vois pas la différence. Surtout quand je dois attendre 2 ans pour une saison, en fait.
Oui, c'est ça. Mais moi, je vois la différence dans le sens où les films sont plus longs qu'avant. Du coup. Et genre, les films, maintenant, ils sont plus dans les... Avant, c'était pas rare de voir un film de 1h30, allez, 1h40, 1h45 grand max. Mais maintenant... Tous les films quasiment
oui, tous les films
sont
font
à 1h45 minimum, quoi.
Ouais, mais quand tu vois qu'il y a
alors 2h et c'est grave ok maintenant. Alors que et les séries, maintenant, c'est vraiment des épisodes de 1h. Il y a des épisodes de 1h30 maintenant.
Oui, mais souvent les
derniers Stranger Things. Bah ouais.
Désolé, je vais devoir encore une fois vous couper.
Non,
on
oui,
est à
oui,
47
pardon.
Minutes.
Non, c'est ok.
Donc, voilà. Mais c'est intéressant ce que vous disiez. Et oui, en effet, c'est ok. Il va falloir tout simplement. On va passer à la deuxième pause musicale.
Faire évoluer la consommation, je pense.
Voilà, exactement. Deuxième pause musicale, on va écouter Between Two Worlds de Millie. C'est un jeu qui est dans un nouveau jeu auquel j'ai joué qui s'appelle Limbus Company. On se retrouve juste après. Des bisous tout le monde et à tout à l'heure.
Voilà. À tout.
de retour et on va être avec moi. On va être avec moi parce que ouais voilà.
C'est... Il a eu un doute soudain, il était pas sûr.
Avec moi.
J'étais il était à deux doigts de repartir chez lui.
Qui suis-je?
Aujourd'hui on va parler de quoi? Du coup aujourd'hui t'as lancé les dés. On va parler
de dés.
Oui merci merci Claire.
Mais non. De lancer.
On va parler surtout de d'actual play. Qu'est-ce que c'est un actual play? Un actual play c'est un concept qui en fait qui est très simple. C'est une partie de jeu de rôle. Donc, on va dire souvent une bande de potes qui vont décider de faire leur partie de jeu de rôle, mais sur Twitch ou sur YouTube. En gros, ils vont la montrer. Il y en a beaucoup. J'en parlais un peu, évidemment. Et,
aventure à la bonne époque.
Aventure à la bonne époque. Du coup, le format, c'est un peu une espèce de théâtre d'improvisation ou de série audio ou, en gros, de jeu de société géant, si vous voulez. Mais, c'est souvent sur Twitch. La plupart sont sur Twitch et on en a... pas mal dans tous les pays. Je vais parler évidemment d'abord des Français, puis des Américains, et je donnerai mon avis sur là-dessus. Les précurseurs en France, c'est évidemment c'est Aventure. Ça a été porté par l'équipe du joueur du grenier, donc Bob, Maillard, Fred. C'est eux qui ont... Et Crane, on oublie souvent Crane.
Et Crane, qui est incroyable qui était... Le nain,
oui.
Le nain
Grunleck von... J'ai oublié comment il s'appelle. Mais Grunleck.
Il était fabuleux, il se faisait bolos à chaque fois.
Je sais pas de quoi vous parlez.
Mais...
Aventure, c'était le joueur du grenier tout. Il faisait des JDR toutes les semaines, il sortait toutes les semaines, j'ai regardé.
Et c'était trop trop bien.
C'était fabuleux.
Et j'aimais pas.
Et ça fait partie, ça
t'as
fait partie. Oui, t'as le droit. Ça fait partie des actuels plays qui m'ont remis moi dans le jeu de rôle. Bon, mais aujourd'hui on a Game of Roll qui est en mastodonte avec Fibre Tyr et Mister V et Alpha et Mister MV et Alpha Cast qui personnellement moi j'accroche pas.
J'en ai jamais entendu parler.
Bah en gros, j'expliquerai après pourquoi est-ce que j'ai plus de mal avec beaucoup des actuels plays français. Mais on verra après. La bonne auberge qui est portée par.
Qui est différente de la mauvaise auberge.
Ouais, exactement. Qui est portée par Lucien Mel et Adrien Méniel et que moi j'ai découvert avec leur Dragon. Où c'est justement des un actual play qui était porté par des drag queens. Et c'était trop bien.
J'avoue que ça a l'air chou de fou.
Et enfin il y a...
Ça te plairait de ouf.
Ouais, je crois que ça te plairait vraiment de fou. Et après il y avait Roll or Die qui est du coup une équipe de passionnés qui est une des plus grosses françaises qui eux font beaucoup de campagnes qui sont sombres et qui sont souvent épiques et soignées techniquement. Et puis il y a ceux qui sont moins connus, notamment évidemment je parlais moi de mon doudou vu que c'est là où je suis et que c'est mon truc de cœur, la taverne des Rollies qui propose
mon doudou.
C'est mon doudou.
Mais c'est mon bébé.
Et du coup où on propose plein de styles de campagnes différentes. On a du Donjons et Dragons, on a du plus sombre, on a du plus simple. Mais actuellement, les deux plus grosses campagnes qu'on a, c'est une campagne sur du Donjons et Dragons qui est portée par un de nos MJ qui s'appelle Baron. Baron.
Coucou à toi.
Coucou à toi Baron si t'écoutes, mais je ne pense pas que tu écoutes.
Car il est sourd.
Exactement. Mag qui est porté par Sai, qui est du coup le créateur de la taverne des Rollis. Et les chroniques de Sicard qui sont portées par moi. En tant que MJ.
J'ai eu un doute, il a failli dire son pseudo au cas où.
Et voilà, c'est ça. Mais voilà, mais sinon, outre ça, il y en a évidemment de l'autre côté de l'Atlantique. En français, on a des Québécois avec Es-tu Game, qui est du coup un peu la référence de l'actual play québécois, qui est très frais, très accessible et qui est très drôle en vrai. Il y en a un autre, du coup, dont j'ai pas retrouvé le nom, que je tombe toujours sur Instagram, où ils sont incroyables. Il y a Coup Critique, qui sont aussi encore une fois des passionnés, où c'est très souvent intense et c'est très souvent du Donjons et Dragons. Il y a une vraie patte québécoise dessus. Et aux USA. Attention, j'enfonce des portes ouvertes. Il y a Critical Role, qui sont les plus gros et qui sont exceptionnels.
Attends, c'est US Critical Role?
Ah oui, c'est US.
Je pensais que c'était UK.
Ah non, c'est US.
D'accord.
Il y a Dimension.
La géographie, c'est pas mon fort.
Il y a Dimension 20 qui travaille souvent avec Critical Role et qui sont aussi incroyables. Très engagés politiquement, mine de rien.
Mais comment est-ce possible?
Comment est-ce possible dans le jeu de rôle de la politique? Oh, je n'y crois pas. Mais, mais du coup, qui sont vraiment très cool. Et enfin, The Adventure Zone qui est une famille qui a transformé en fait. C'est gay, c'est deux. Pour le coup, c'est vraiment genre. De mémoire, c'est genre trois filles et leur père.
C'est trop chou.
Et voilà. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je pense que c'est genre important d'en parler? Parce que je pense que la QL Play, ça a été un peu le truc qui a permis de remettre au goût du jour le jeu de rôle. Ça a permis de refaire connaître le jeu de rôle et que ça a permis de faire passer le jeu de rôle dans une nouvelle. dimension, et surtout que plus de personnes ont plus vu le jeu de rôle comme un vrai truc possible d'y jouer, et pas juste comme un truc de nerd qui est en mode, alors je lance un des 20, alors plus 15, oh là là, je sors avec la gobeline. Donc, je vous jure que quand je parle de jeu de rôle, parfois j'ai des gens qui sont en mode, mais c'est un truc de boutonneux pervers, non? Ben non.
Après, vaut mieux poser la question que dire c'est un truc de boutonneux pervers.
Après, j'ai aussi le droit à des gens qui sont en mode, quand tu parles de jeu de rôle, c'est des trucs que tu fais avec ta compagne et qu'elle est déguisée en infirmière. Alors, oui aussi, mais c'est pas ça.
Quoi dont je parle, évidemment, c'est la prochaine émission, on voulait pas vous le spoil.
Mais voilà, ça monte en renouveau et. Bah, pour beaucoup, il y a aussi une certaine forme d'authenticité. Et c'est là qu'on va parler du fait que bah, je consomme beaucoup plus de contenu de Critical Role ou Droit de Soigny que de contenu français parce que la spontanéité. On a quelque chose, ce sera peut-être pas quelque chose qui va être partagé par beaucoup de monde, mais c'est mon ressenti, c'est qu'on a de l'autre côté de l'Atlantique, et ça me fait chier de dire ça parce que vous savez que... Enfin, voilà. Non, vous savez pas, mais c'est pas grave. C'est qu'ils sont beaucoup plus, on va dire, dans mon point de vue authentique, ils jouent beaucoup plus leur personnage, ils sont beaucoup plus mis dans leur personnage, et du coup, les histoires qui sont racontées sont beaucoup plus prenantes, il y a beaucoup moins, en fait, de prout-prout le caca. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
Genre, en mode, il va y avoir des blagues, genre, par exemple, je vais prendre un exemple, dans un actuel play, donc j'ai oublié lequel, je crois que c'était dans je sais plus c'est dans lequel, t'as un personnage... Donc t'as genre vraiment un PNJ important qui meurt. T'en as un qui essaye de jouer genre vraiment genre sérieusement le fait que le personnage est mort. T'en as deux qui sont rien à foutre. Et t'en as un dernier qui fait des blagues.
Enfin, c'est un truc français.
Ouais, c'est un truc français. Et je trouve ça déplorable.
Et je crois du coup de quoi tu parles.
Ouais, je crois que tu vas de quoi.
Bah vu ce que t'as dit tout à l'heure, oui.
Oui, et je trouve ça genre juste déplorable parce que bah genre le but du jeu de rôle c'est quand même de jouer un truc et genre je comprends que on a envie de rigoler et c'est normal qu'il y ait de l'humour mais en fait il y a un temps pour tout et le fait de toujours vouloir montrer de l'humour et de vouloir montrer en fait vouloir dédramatiser en fait une comment dire, je suis en train de voir le temps, c'est pour ça aussi que une situation qui est censée être dramatique, en fait faut arrêter de prendre les joueurs et les personnages, les gens qui regardent, pour des débiles. En fait les gens peuvent être tristes, les gens peuvent, là c'est pour ça aussi qu'ils ont regardé ça. Vouloir systématiquement en fait essayer de dédramatiser en fait un truc comme ça, comme fait parfois les Marvel, et j'ai beaucoup de mal avec ça. Je trouve que ça retire en fait une grosse partie de l'immersion et de la qualité en fait tout simplement de l'œuvre.
Oui, puis je pense que ce truc là, pour le dire rapidement, c'est juste qu'en fait t'assumes pas trop ce que tu fais et t'es en mode ok, mais moi je vais pas, ah là là, vous avez vu, je suis pas trop un nerd hein, je fais des blagues hein. Bon,
et voilà, c'est ça.
Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, par exemple, j'ai déjà vu des extraits, parce que moi je suis pas très fan de JDR, tu sais, et encore moins de regarder du JDR. Oui. Mais je sais que par exemple, je vais prendre mon exemple que je connais le plus, c'est les voice actors de Baldur's Gate qui sont fans de JDR aussi et qui font souvent dans les conventions
des parties de
Donjons et Dragons où ils incarnent souvent les mêmes personnages qu'ils avaient dans Baldur's Gate, parce que c'est souvent des trucs de Baldur's Gate, mais ils font des choses parfois un peu différentes ou des histoires complètement inédites, mais ils sont tellement dans leurs personnages et souvent quand il y a un truc un peu sérieux, etc., il y a une grosse touche d'humour.
Mais il y en a toujours.
Il y a une grosse touche d'humour. Mais il y a aussi, à un moment donné, tu vois que les joueurs pleurent parce que leur personnage...
Bah, vivent quelque chose de dur.
De dur. Et tu les vois pleurer et tout le monde est OK avec ça. Et je pense que j'ai vu aussi d'autres extraits. Il n'y a pas forcément que les voice actors de Baldur's Gate qui font ça. Mais j'ai vu d'autres extraits. Je crois que dans Critical Role aussi, il y a beaucoup des acteurs qui pleurent quand il arrive quelque chose à leur personnage ou à un PNJ.
À la fin de la campagne de Vox Machina, ils ont pleuré parce qu'un personnage est mort.
Ouais.
C'est normal. Il y a eu une demande en mariage dans le JDR qui a été faite sur scène. Et ils sont allés jusqu'au bout du truc et des gens ont pleuré, des gens ont fait ça et c'est normal. En fait, le jeu de rôle, je me dépêche de terminer parce que je vois le temps. Le jeu de rôle se rapproche très fort du théâtre. Et dans le théâtre, on peut avoir des pièces qui vont être uniquement comiques et c'est fait pour. Mais des pièces qui se veulent être épiques, il faut des moments qui sont sérieux. Et si on n'assume pas en fait le côté sérieux et le côté en fait fragilité en fait dans un sens de montrer en fait que ça nous touche les trucs, on n'arrivera à rien. Je trouve ça dommage et je vais pas donner de nom parce que j'ai pas envie d'en donner de nom. Que j'ai l'impression que dans notre culture, on a beaucoup de mal en fait à accepter le fait que ça puisse être triste. En tout cas, dans les personnes que je vois.
Ou accepter alors... nos émotions sincères.
Accepter nos émotions sincères.
D'un point de vue étranger, les Français, on est vu comme l'humour noir. Est-ce qu'ils n'essayent pas de faire de l'humour
noir? Non, c'est pas de l'humour noir, c'est vraiment pour le coup, c'est pas ça.
Mais mal fait peut-être.
De toute façon, on doit s'arrêter là, je suis désolé.
Oui, mais
je vous souhaite de toute façon à ceux qui nous écoutent une très bonne fin de soirée. Le mot de la fin de Mel.
Des bisous.
Le mot de la fin de Claire. Et des bisous tout le monde. À dans deux semaines.
Bisous.
Radio G. 101.5 FM. Radio-G.